Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour débattre aujourd'hui avec Jacques Myard, maire LR de Maison Lafitte. Bonjour Jacques Myard. Mehdi Ouraoui, essayiste, spécialiste du discours politique. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alex Darmon, journaliste politique, youtubeur. Vous n'avez pas été invité à l'Elysée, vous?
Non, pas encore.
Vous n'avez pas été faire un concours de blagues?
Vous avez vos chances, il invite tout le monde.
Pas encore.
Vous avez votre chaîne, s'appelle Les Indécis, et c'est une chaîne plutôt de commentaires politiques. Hein. Voilà. Vous ne faites pas de blagues.
On fait des interviews, on fait des blagues avec les politiques, mais on, voilà.
Non, pas comme Matt Fly et Carlito. Jean-Claude Beaujour, bonjour, avocat.
Bonjour.
Et vice-président de France-Amérique. Bonjour à vous. Eh bien, on va revenir sur l'impuissance de l'État face à la petite délinquance. On va parler des rodéos, on va parler de ces maires agressés également, un maire tabassé à coups de barre de fer, la hausse de la violence contre les élus, l'agressivité générale. Et puis, cette préconisation de l'Académie de médecine, faut-il rendre la vaccination obligatoire pour certaines professions? On en parle avec vous dans un instant. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention. Ben, on va commencer avec vous, Alex, puisque c'est un sujet qui tourne et qui est un peu un feuilleton comme Darmanin-Pulvar. Là, il s'agit de Jean-Marie Bigard, au cours de cette réunion publique qui a rassemblé 200 personnes pendant le week-end, mais qui a beaucoup, beaucoup fait parler. Je vous propose de réécouter Jean-Marie Bigard.
Et pourquoi il ne nous collerait pas une étoile jaune pour qu'on soit repéré plus facilement quand même Agnès Buzyn, qui est maintenant protégée en Suisse. Quand tu penses que cette connasse, pardon, ne va pas payer ses crimes, espèce de grosse connasse, crève. Olivier Véran a du sang sur les mains. Eh bien, c'est un mange-merde, un connard. Et nous n'avons aucune raison de le suivre. Alexandra me dit pas de gros mots. Mais je pense que mange-merde, ça lui va bien. Ils le paieront. Et ils mourront de leur cupidité.
Voilà, et ce matin, Marlène Schiappa lui a répondu. Écoutez.
Le gouvernement doit s'exprimer à chaque fois que Jean-Marie Bigard boit un coup de trop et prononce des insultes et des menaces. Moi, je trouve que ça illustre vraiment les ravages de l'alcoolisme. Enfin, pardon de le dire, mais moi, je suis étonnée dans les commentaires que personne ne fasse référence à ça. On a manifestement quelqu'un qui n'est pas dans un état normal et qui prononce des propos absolument honteux et scandaleux.
Voilà, donc je pense que ça va continuer, parce que je pense qu'il n'avait pas bu du tout, qu'il était dans son état normal. Il était chez Cyril Hanouna deux jours avant, où il a réitéré le même type de propos. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Alex Darmon, sur...
Franchement, c'est pitoyable. Honnêtement, on parle quand même d'un humoriste qui est le seul humoriste à avoir rempli le Stade de France, qui a une audience, qui est écoutée, qui était entendue, qui était drôle aussi à une époque. Là, voilà, c'est le syndrome du donné, j'ai envie de vous dire, c'est pitoyable. Il a le droit d'être contre le vaccin obligatoire. Enfin, moi, je juge pas. Si vous voulez vous faire vacciner, vous allez vous faire vacciner. Vous voulez pas vous faire vacciner, vous allez pas vous faire vacciner. C'est dommage, c'est-à-dire que vous êtes individualiste, mais c'est votre problème et ça vous regarde. Par contre, là, il y a tout ce qu'il faut pas dans cette déclaration. On insulte, on souhaite la mort à quelqu'un, on compare ça à l'Holocauste en disant il faut nous mettre une étoile jaune pour qu'on nous reconnaisse. Enfin, franchement, c'est vulgaire. Quel message ça donne aux gens qui regardent ça? Et puis même dans la manifestation, vous aviez des manifestants, vous avez dit ils étaient 200, donc c'est pas beaucoup. C'est aussi ça qui est rassurant.
Mais alors, c'est l'écho qu'on donne aussi à cette manifestation.
Bien sûr, mais c'est pas la première fois. Et l'écho qu'on donne, mais vous savez, on donne l'écho à cette manifestation, mais il est sur des plateaux de télé aussi, Jean-Marie Bigard. Et il a invité à des heures de grande écoute pour débattre avec des médecins. Enfin, mais on marche sur la tête, sincèrement.
On voit bien les références, par ailleurs,
quand
même, on voit bien des références qui sont quand même très marquées. L'étoile jaune, faire référence à Agnès Buzyn, l'argent, la Suisse, etc. On voit tout à fait à quoi il fait référence. Pour le coup, évidemment, on vient de parler de Dieudonné. Moi, je voudrais quand même insister sur le fait que si Jean-Marie Bigard était un rappeur d'une autre couleur que la sienne, d'ailleurs, ses propos feraient un scandale national. C'est-à-dire que personne n'accepterait qu'il tienne ce genre de propos à une tribune publique en insultant et en appelant au meurtre quasiment de ministres de la République. Alors, on peut penser ce qu'on veut de ces gens-là. Enfin, de fait, ce sont quand même des ministres de la République. Et donc, quand même, je trouve qu'il y a un deux poids, deux mesures, moi, qui m'inquiète beaucoup. Et je trouve que ce n'est pas un bon signal envoyé à la jeunesse de dire quand c'est des gens qui sont des rappeurs, qui sont habillés un peu gangsta, etc., tout le monde en fait des gorges chaudes, et parfois d'ailleurs à raison. Parfois il y a effectivement il y a des paroles extrêmement graves chez certains rappeurs, etc. Puis là, comme c'est Jean-Marie Bigard, alors c'est un peu tonton bourré, machin, on le laisserait dire ce qu'il veut. Ouais. Eh ben non, je suis désolé, dans la République, il y a des lois, il y a des règles, et là, il tient des propos qui dépassent et qui outrepassent ces règles-là et qui outrepassent ces lois, qui sont des propos qui tombent sous le coup de la loi. Moi, je trouve que c'est extrêmement quand même préoccupant de voir que, effectivement, il a table ouverte dans un certain nombre de médias et que personne ne se préoccupe du fait qu'il tient des propos dangereux. Voilà.
Oui, Jean-Claude, bonjour.
Vous connaissez ma sévérité pour ce type de comportement. Je suis surpris d'entendre Marlène Schiappa dire qu'il était un peu saoul. Je veux dire, l'état alcoolique ne justifie pas qu'effectivement, en plus, ça a été réitéré. Réitération, je trouve non seulement scandaleux ces propos, mais pour moi, il y a deux choses. La première, c'est que j'attendrai du ministre de la Justice qu'il engage des poursuites pour insultes publiques, injures publiques. Probablement incitation à la haine. Je trouve que la moindre des choses, c'est de réagir sévèrement, et encore plus parce qu'il s'agit d'une personnalité publique qui a pignon sur rue. Ne peut pas être membre de l'élite et sans responsabilité. Il faut donc sanctionner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et le sujet sera posé tout à l'heure, on voit bien qu'il y a en permanence une attaque contre les responsables publics, de quelque bord qu'ils soient. Et je trouve que c'est là le danger, parce qu'après, on vient dire que tel ou tel jeune n'a pas respecté le maire, et je parle sous le contrôle de Jacques Myard. Comment voulez-vous qu'un jeune, après, ne se sente pas tout autorisé lorsqu'on vient insulter comme cela un ministre de la République, dont on peut ne pas partager les options. On peut ne pas partager ses options, mais en arriver à s'en prendre à la personne en faisant des amalgames, elle part en Suisse, elle sera protégée. Effectivement, personne ne peut comprendre, et effectivement, un certain nombre de nos concitoyens ne comprendront pas qu'elle n'est pas partie en Suisse pour pouvoir se protéger. Elle est partie en Suisse parce qu'elle a pris des responsabilités dans une organisation internationale qui a son siège en Suisse. Voilà la réalité. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on ne cherche plus la réalité, on se contente d'approximations.
Oui, Jacques Myard.
Bon, écoutez, c'est évident. Je crois que la seule réponse, c'est de mépriser ce genre de propos. Et plus on en parle, plus on lui fait de la pub. Donc moi, je l'ignorais totalement, mais je suis d'accord avec Jean-Claude. Je pense que ces propos tombent sous le coup de la loi et que trop, c'est trop. Donc je n'en dirai pas davantage. Je suis proprement scandalisé. J'ai des adversaires politiques. Il m'arrive de temps en temps de les brocarder, mais de le faire de cette manière est parfaitement inadmissible et donne un très mauvais visage, un très mauvais profil, je dirais, de ce qu'est le combat politique.
Ouais. Des auditeurs nous disent, il dit tout juste ce que les gens non endoctrinés pensent tout bas, il n'y a rien de choquant, celui qui nous insulte le plus, c'est le gouvernement. Gilles nous dit, je condamne en effet les insultes, mais est-ce qu'on peut parler du fond? Là, on parle, le débat sur le fond, on l'a déjà fait plusieurs fois, mais c'est le mode d'expression de quelqu'un, effectivement, c'est pas un lambda qui dit une
Valérie,
chose
vous
comme
savez
ça.
Ce que c'est de se faire traiter de collabo quand vous êtes journaliste et vous allez faire un reportage, c'est ce qui s'est passé hein, pour l'équipe qui a fait ça. Vous savez ce que c'est ou pas les collabos? Faire le rapport avec ça, mais c'est tellement dangereux, et de les huer. Vous avez vu la haine sur le visage de ce monsieur quand il prononce ses propos? Le fond, il est important, mais la forme, quelquefois, elle est encore plus importante parce qu'elle met en avant le fond. Et c'est très grave.
Vous savez, moi, je suis un partisan de l'état de droit, et dans un système où l'état de droit compte, on regarde, désolé pour votre auditeur, la forme avant d'examiner le fond. Et je suis désolé, le fond ne justifie pas tout. Je suis désolé pour cette personne. On peut effectivement brocarder, on peut effectivement condamner, on peut effectivement lutter contre les positions politiques de Madame Buzyn, de Monsieur Véran et de quiconque, mais on ne peut pas, on ne doit pas traiter une personnalité publique ou privée d'ailleurs de la sorte. Je suis désolé. Et je suis désolé, c'est pas il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ça ne relève de rien du tout. La majorité de nos concitoyens ne partagent pas ces façons d'être.
L'insulte est facile. Hein. On le voit sur les réseaux sociaux. On se cache et aujourd'hui, il y a
des gens qui s'arrogent le droit de dire oui, c'est une majorité qui pense. Non, je ne pense pas qu'une majorité, de nos concitoyens soit d'accord pour traiter une femme de la manière dont M. Bigard l'a fait. Je suis désolée.
Maya nous dit bonjour, ça dessert ce que Bigard a dit. On va retenir que les propos haineux. C'est ça, personnellement, moi je suis toujours en colère envers Buzyn avec ses affiches qui disaient que le Covid n'arriverait pas en France, etc. Oui, mais
y a... De toute façon, il y a effectivement des poursuites qui sont engagées contre Mme Buzyn. Il y a effectivement une sanction politique. Oui. C'est aussi la deuxième sanction puisqu'elle a été battue aux élections.
Mais là, effectivement, c'est ce qu'on était en train de dire, c'est que la forme des propos de Bigard occulte totalement
En plus, par quelqu'un qui a un certain niveau, donc il ne peut pas dire...
Mais je trouve que la réponse de Marlène Schiappa n'est pas très intelligente.
Elle n'est pas à
la hauteur de la situation. Merci. On se retrouve dans un petit instant. On continue de débattre avec vous. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
On est ensemble entre 11h et midi pour commenter l'actualité avec Jacques Myard, maire LR de Maison Lafitte, Mehdi Ouraoui, essayiste, spécialiste du discours politique, Alex Darmon, journaliste politique, youtubeur, votre chaîne de commentaires politiques, de débats politiques, Les Indécis, et Jean-Claude Beaujour, avocat et vice-président de France-Amérique. On va revenir sur ce qui s'est passé hier, un maire tabassé à coups de barre de fer. On va revenir sur cette violence contre les élus, les rodéos, l'État impuissant contre la petite délinquance, avec cette annonce hier, on l'avait un petit peu évoqué, de Gérald Darmanin qui propose 135 euros d'amende pour les guetteurs. On propose également de dénoncer, que les parents dénoncent leurs enfants qui font des rodéos. Et puis la vaccination obligatoire pour certaines professions, c'est ce qu'a proposé l'Académie de médecine hier. Continuons notre tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Mehdi ?
Alors, pour le coup, c'est une vraie actualité, puisque le président de la République s'est exprimé sur le sujet il y a quelques minutes, quasiment, enfin, il y a un peu plus d'une heure, en fait. Et c'est le fameux feuilleton sur les langues régionales, puisque maintenant, ça fait plusieurs semaines et plusieurs mois que les gens qui s'intéressent au sujet des langues régionales vivent un feuilleton à la fois palpitant et un peu désolant, je fais un résumé très, très, très rapide des épisodes précédents, mais... Premier épisode plutôt positif, l'Assemblée nationale et le Parlement adoptent une loi assez historique sur les langues régionales, où notamment l'enseignement immersif, c'est-à-dire toute la journée dans une langue régionale, est reconnu, y compris dans le public. Épisode 2, le ministre Blanquer n'était pas content. Donc, au lieu de préserver cette unanimité autour des langues régionales et ce consensus qui avait été trouvé, il pilote en sous-main une saisine auprès du Conseil constitutionnel avec quelques parlementaires proches de lui, ce qui est un peu bizarre, parce qu'il se trouve que le gouvernement était censé soutenir cette loi. Et donc, ce ministre un peu énervé, qui avait reçu un camouflé de l'Assemblée nationale, se venge un peu en allant saisir le Conseil constitutionnel. Si vous suivez toujours, il se trouve que le Conseil constitutionnel, donc dernier épisode, rend une décision ces derniers jours pour dire on casse un des éléments clés de la loi, qui est donc l'enseignement immersif à l'école publique. Et petite cerise sur le gâteau, qui concerne beaucoup d'entre nous ici au Pays Basque et puis dans d'autres régions, en Bretagne, en Alsace, en Corse, etc., on menace très directement le cadre juridique de gens qui n'ont rien demandé à personne et qui ont simplement leurs enfants dans des écoles associatives. Moi, c'est le cas des miens. Donc, ils sont dans une école associative où on parle basque toute la journée et moi, je leur parle en basque à la maison, etc. Bon. Et donc, nous, qui n'avions absolument rien demandé à personne, nous retrouvons extrêmement menacés. Et donc, les écoles de nos enfants ont un cadre juridique qui est extrêmement menacé, qui risque à court terme juste de fermer. Et là, dernier épisode ce matin.
Allez-y vite,
je termine là-dessus. Le président de la République, et c'est là que, Valérie, ça va vous intéresser, parce que je sais que les épisodes précédents ne vous ont pas passionné, mais
ça concerne combien d'écoles
Je vous rattrape à la quatrième saison, que ça concerne peu d'écoles au regard du nombre total d'écoles, mais la parole présidentielle est tombée ce matin, c'est incroyable. C'est-à-dire que pour un sujet qui finalement, Valérie, ne vous intéresse pas tant que ça, je le sais, je le vois et je l'entends.
C'est fait pour qu'on s'intéresse à d'autres sujets aussi.
Exactement.
Dites-nous ce qu'a fait le président de la République.
Je suis votre minorité basque ici, je le sais bien, mais c'est pas grave. Et donc, ce qui est absolument incroyable, c'est que vous avez un président de la République qui, sur Facebook, alors on n'est pas dans McFly et Carlito, mais enfin, on est quand même pas loin, nous explique que finalement, peut-être, on ne sait pas très bien comment, il va trouver une solution pour que les braves gens que nous sommes, dans des écoles associatives, mais absolument pas dans l'école publique, parce qu'il ne parle absolument pas de l'école publique, il va finir par trouver une petite solution. Donc on est dans le, on n'est même plus dans
la démagogie.
C'est dur en même temps. Les langues de France sont un trésor national, donc ça commence bien pour nous.
On l'a déjà dit.
Pour résumer, pour les gens qui n'ont rien compris, et je comprends qu'ils n'aient rien compris, le président de la République, sa majorité et le gouvernement ont encore livré un pataquès gigantesque qui oblige le président de la République, qui quand même, pardon, hein, même si j'ai du respect pour nos propres écoles et pour nos enfants et pour leur langue, quand même le président de la République en ce moment a quelques autres dossiers à gérer. Il se trouve qu'on a quand même un avion qui est détourné par
Attendez, on ne va pas faire l'heure sur les langues régionales. Vous m'avez intéressé, mais Jacques Mia dise un mot.
Tout ça pour dire que tout ça est ridicule et qu'Emmanuel Macron devrait quand même un petit peu sélectionner les choses.
Il devrait moins communiquer, on est d'accord.
Exactement. Et c'est un énorme bazar, comme on l'a vu encore une fois dans ce quinquennat, c'est absolument catastrophique.
Mais il faut quand même regarder les choses en face. L'article 2 de la Constitution dit que la langue de la République, c'est le français. Qu'il y ait des langues régionales, personne n'est contre, on l'a reconnu comme étant un patrimoine. Mais véritablement ne pas enseigner le français à tes enfants, etc., je crois que c'est une erreur.
Vous croyez, sincèrement, que mes enfants parlent mal français?
Mais j'espère bien qu'ils parlent très bien.
Allez, on continue.
Parce qu'il ne faut pas non plus aller au communautarisme.
Mais Valérie, pour terminer quand même juste sur ce point, il y a juste un petit détail, c'est que l'article 2 de la Constitution a été fait pour nous protéger, on le sait bien, d'une langue dominante qui est l'anglais. Et quand même, il y a
c'est la reconnaissance que la langue française est la langue qui unit tous les Français.
Je voudrais qu'on avance. Je voudrais qu'on avance quand même. Jean-Claude, vous, c'est un coup de gueule?
Oui, c'est un coup de gueule en signe d'alerte, parce que j'ai lu un article particulièrement intéressant dans la Tribune de Joël Ruet, qui est président du think tank The Bridge, sur la situation au Mali. Voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est inquiétant? Tout d'abord, on est passé du putsch l'an dernier au quasi coup d'État aujourd'hui. On est passé dans une situation qui est maintenant un imbroglio, et plutôt que de voir le bout du tunnel, les choses vont s'empirer. De conséquence, pour nous, et c'est pour ça que je me permets d'attirer l'attention, c'est que tout d'abord, il y a des populations civiles qui, au milieu, payent l'addition, finalement, parce qu'un État qui est instable, c'est un État qui ne va pas bien, c'est de l'argent qui va à l'appareil militaire, alors que ce sont des pays qui ont besoin qui ont des besoins primaires, dont les populations ont des besoins primaires. Ça, c'est la première chose, on pense à ces populations. Et puis, deuxièmement, l'instabilité dans cette région a une conséquence sur la situation en matière de sécurité, de terrorisme, c'est Daesh, etc. C'est un certain nombre de groupes terroristes qui, au fur et à mesure, ont pignon sur rue et gangrènent, y compris la situation qui risque de s'aggraver pour nous dans la lutte contre le terrorisme. Et enfin, lorsqu'il y a instabilité des États, et surtout au sud de la Méditerranée, la conséquence est aussi celle sur le flux migratoire. Parce que ne nous racontons pas l'histoire, des populations qui souffrent sont des populations qui quittent leur pays. Donc on a beau, et j'entends dire qu'il faut lutter contre les flux migratoires, etc. Mais on ne peut pas s'émouvoir de ce qui se passe en Méditerranée sans regarder ce qui se passe à la source, et notamment là. Donc j'invite vraiment à lire cet article de Joël Ruet et à s'interroger. Alors je sais que le président de la République en a parlé, mais nous avons, je ne dirais pas une responsabilité, mais nous sommes un acteur majeur dans la région, et je pense qu'il faut tout faire pour que cet engrenage de l'instabilité politique dans les États d'Afrique noire puisse à un moment donné s'arrêter, parce que ça nous reviendra en boomerang.
De toute façon, allez, on va marquer une pause, on revient avec le coup de gueule de Jacques Myard. Quel teasing, quel suspense, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Et nous débattons ce matin avec Jacques Myard, Mehdi Ouraoui, Alex Darmon et Jean-Claude Beaujour. Alors, Jacques Myard, votre coup de gueule, on vous attend avec impatience.
Vous savez, c'est assez simple. C'est un coup de gueule contre le président de la République qui joue les amateurs les amuseurs publics et M. Darmanin qui rétropédale allègrement. C'est qu'en réalité, tous les deux, ils sont dans les rois de la com, des rois qui vont bientôt être déchus, mais des rois de la com. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se présente comme un copain avec cette espèce de paninodi où véritablement il veut apparaître comme un petit jeune.
Paninodi. Paninodi.
Oui, paninodi, c'est-à-dire que ça ne tient pas la route. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'un président de la République veut apparaître déclassé par rapport à son statut.
Oui, mais on l'a évoqué hier un petit peu, je crois que vous vouliez aussi en reparler. Ouais. Je vais vous laisser aller au bout, mais notre jeune réalisateur Bastien, qui a 19 ans, qui ne s'intéresse pas du tout à la politique, il l'a trouvé sympa.
Le problème n'est pas là. Le problème, ce n'est pas qu'il le trouve très bien. Le problème, c'est qu'il y a un moment, tout ça, on voit que c'est du montage et que c'est quelque chose de faux, parce qu'ensuite, le président de la République, institutionnellement, il l'a d'ailleurs dit un jour au 18 juin à Suresnes, où il a remis en place un jeune qui le traitait comme un copain. Il lui a dit non, je suis le président de la République. On voit bien que tout ça, c'est factice. Tout ça, ça n'a aucun sens. Et vous savez, BGE, il apparaissait en col roulé à la télévision. Oui. Il déclassait et il s'est planté. C'est aussi simple que ça. Président de la République, ce n'est pas un copain sur lequel on lui tape sur le ventre en disant « Comment vas-tu, vieux frère ?» Ça n'a pas de sens. D'accord. Ça n'a pas de sens. Quant à Darmanin, il fait un rétropédalage absolument prodigieux. Il commence à flinguer Poulevard et puis ensuite, il s'aperçoit que véritablement, il va se faire ramasser par les juges qui n'aiment pas trancher ce genre de conflit politique. Et donc, il fait un rétropédalage. Donc, vous avez un ministre et un président de la République qui sont les champions de la com. Eh bien, ils vont dans le mur.
Ouais.
Non, mais Alex Darmon.
J'aime beaucoup Jacques Myard, en plus, honnêtement, parce que je l'ai interviewé plusieurs fois à l'Assemblée nationale, et vous aimiez vous prêter à ce jeu. On fait des blagues, on rigole.
Moi, je suis pas président de la République. Voilà.
Non, mais on parle de politique autrement, et je vous en remercie, parce que quand j'étais à Public Sénat à l'époque, vous le faisiez, et je vous en remercie, parce que c'était hyper intéressant, et ça permettait de vulgariser la politique. Honnêtement, moi, je trouve qu'on tombe sur le président de la République par rapport à la vidéo de dimanche qui fait 10 millions de vues, où il y a des gens qui n'ont jamais parlé de politique, des jeunes qui n'ont jamais parlé de politique, qui. Là, commence à comprendre un peu le président de la République. Bon, au moins, voit l'Élysée, commence à se rapprocher. Et puis, il est dans son temps. Quand Jacques Chirac allait sur Skyrock à l'époque, il était de droite. Je pense qu'il était dans son temps. Il voulait parler aux jeunes, aux plus jeunes. Il le faisait, ça a marché, il a été réélu. Voilà, si Barack Obama l'aurait fait à l'autre bout du monde, on aurait dit c'est un génie. Angela Merkel l'a fait en Allemagne. On a salué.
Alex, ouais. ne te trompe pas. Que tu le veuilles ou non, ça s'appelle dérocher. C'est-à-dire qu'il essaye d'apparaître pour ce qu'il n'est pas. Et donc ça, c'est une faute. C'est mépriser les jeunes. Et en réalité, à terme, les jeunes vont dire « Ouais, bon, d'accord, il nous fait du violon, mais il n'est pas ce qu'il nous prétend être. »
Jacques, rappelez-vous dans l'émission Au tableau, en 2017, je travaillais dessus, il était déjà dans cette ère-là, il a une communication autre que la communication politique habituelle. Il est comme ça, il est dans son temps, il est dans son ère. Après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est autre chose.
Je voulais pas qu'on en parle, on en a beaucoup parlé, mais... Alors, l'avis de Jean-Claude Beaujour.
Oui, moi je crois que... Alors, à titre individuel, je suis pas très, très partisan. En tout cas, je ne pense pas que le retour sur investissement soit aussi mécanique que cela. C'est-à-dire que les jeunes, effectivement, ils vont dire, il est sympa, il nous a parlé, on a compris, on a vu l'Élysée, etc. OK, donc sur le plan de la communication, il peut y avoir un intérêt. Moi, j'ai été sondeur pendant de nombreuses années, sondeur politique pour Bulle BVA. Je peux vous dire que lorsque vient le moment de voter... les gens oublient tout cela. Hein. Et ce qu'ils regardent, c'est véritablement leur immédiateté. Est-ce que j'ai du boulot? Est-ce qu'on a résolu mon problème? Est-ce que l'école est accessible? Est-ce que la promotion sociale fonctionne? Donc, j'ai envie de dire, oui, pourquoi pas sur ce type de communication, mais attention. Attention, il faudra être au rendez-vous. Et si le gouvernement n'est pas au rendez-vous, il le paiera au centuple.
Jean-Claude, là,
spécialiste du discours politique.
Oui, non, mais bon, sur la forme, moi, je suis désolé. La vérité, c'est qu'il n'y a quand même pas non plus de quoi s'émouvoir beaucoup. Il n'a pas non plus, ça va, il n'a pas chanté le petit bonhomme en mousse chez Cyril Hanouna. Il faut se calmer un peu.
C'était pas très drôle. Hein. Moi, j'ai regardé, c'est pas de mon âge non plus.
C'était gentiment, c'était pas du tout subversif. c'était voilà, c'était deux jeunes à l'Élysée qui se marrent un peu avec le président de la République. Bon, franchement, il n'y avait pas de quoi pleurer dans les chaumières. Hein. Le seul sujet, en réalité, c'est quand même qui parle à ces jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a quand même qu'une seule personne qui arrive en tête de toutes les enquêtes d'opinion chez les jeunes, et elle s'appelle Marine Le Pen. Donc, et la réalité des partis politiques aujourd'hui, c'est qu'aucun n'a été capable de parler à la jeunesse depuis 20 ans. C'est-à-dire que les partis politiques sont...
Oui, mais pourquoi ?
Non, mais il y a plein de raisons. Mais il y a plein de raisons, notamment leur structure sociologique, etc. Bon, bref, mais en tout cas, les partis politiques sont identifiés par les jeunes comme des trucs chiants, où ils n'ont pas envie d'aller. Et d'ailleurs, franchement, on les comprend, parce que les Français, ouais, d'ailleurs, quel que soit leur âge, ont plutôt désavoué les partis politiques avec l'élection d'Emmanuel Macron. Et donc, je trouve que la démarche d'Emmanuel Macron est une démarche, si on veut lui prêter crédit de ça, est plutôt une démarche qui est plutôt saine, de vouloir parler à la jeunesse. Et par ailleurs, je crois, et là, on a un très gros désaccord, à mon avis, avec Jean-Claude, c'est que moi, je crois qu'il aura un très gros retour sur investissement sur cette classe d'âge.
Ça public qui vote pas,
Jacques, je finis juste là-dessus. C'est que je crois que c'est une classe d'âge qui est hyper sensible au fait que quelqu'un soit capable d'utiliser ses médias à elle pour lui parler. Et personne ne le fait véritablement. Mélenchon a essayé de le faire, mais c'est Mélenchon, et c'est, je suis désolé, mais c'est vieux, c'est vieillot. Macron le fait de façon plutôt très intelligente.
Oui, alors, c'est ce que tu crois, mais en réalité, les jeunes vont dire, oui, bon, d'accord, il nous raconte ça, mais il est le président de la République, et ce n'est pas comme ça que, je dirais, on élève la citoyenneté. Donc, que tu le veuilles ou non, il y a un problème. S'adresser aux jeunes, on le fait. Et je peux te dire que le maire qui vient d'être réélu 6 fois, c'est-à-dire ton serviteur, il a des jeunes qui le soutiennent parce que c'est un problème d'allant. C'est un problème de projet politique. Les jeunes ne sont pas insensibles à ce qu'est la cohérence politique. Or, aujourd'hui,
Moi, je parle des 18-25.
Mais c'est ça, c'est la com, point barre. Il fait un investissement sur le long terme. Il parle à des jeunes qui ont 17 ans aujourd'hui, qui, dans un an, voteront pour la première fois.
Moi, je trouve...
Alors, attendez, Jacques.
Je trouve qu'on déjà je suis prudent sur la notion.
Il a renvoyé Macron.
Je pense qu'il faut rester prudent sur la notion de les jeunes. C'est comme tout. On pense que les jeunes c'est une masse compacte. Vous avez des jeunes. Et effectivement, qu'ils soient plus à l'aise, mais c'est sa génération, d'utiliser un certain nombre de moyens de communication, code, ouais, de médias, de codes, etc., dont acte. Moi, ce que je dis, c'est que le moment venu, les uns et les autres vont regarder simplement ce qu'il y a dans leur assiette. Les jeunes dont vous parlez,
Pas les 18-25, Jean-Claude.
Mais attendez, mais vous rigolez les amis, moi j'ai des jeunes chez moi, j'ai aussi des enfants qui sont très jeunes, j'ai des très jeunes et j'ai des différentes tranches d'âge, je suis désolé. Leur préoccupation c'est comment je peux avoir une formation, comment je peux avoir un stage, qu'est-ce que je dois faire pour avoir mon permis de conduire, etc. Des choses très concrètes, quel est mon avenir. Et si les partis politiques, ont toujours eu du mal à gérer la question de l'avenir, c'est parce que simplement, la question des jeunes, c'est parce que précisément, il est difficile de prédire l'avenir, il est difficile d'organiser l'avenir. Donc c'est ça la difficulté. Effectivement, Marine Le Pen arrive à le faire parce qu'elle n'a pas été aux responsabilités.
Jean-Claude, moi je parle des 18-25. Je pense que Marine Le Pen, elle est en tête sur les 25, au-delà des 25, donc au-delà des 30 en réalité. Là où Macron est très fort, c'est qu'en réalité, il tient un discours qui est un discours qui colle à la réalité de cette jeunesse-là. C'est-à-dire une jeunesse qui est extrêmement précarisée, qui va devoir être très agile, qui est de fait est déjà une jeunesse auto-entrepreneur. C'est une jeunesse c'est ce qu'il a appelé la Startup Nation. Et donc, il parle, je ne vous dis pas qu'il va parler à toute cette jeunesse-là, mais je pense que dans cette jeunesse, quelqu'un qui martèle les thèmes qui sont ceux de Macron, à savoir la réussite individuelle, si tu veux, tu peux, si tu veux t'en sortir, tu pourras
venir. Traverse la rue, tu trouves du boulot.
C'est une minorité.
Mais je pense que c'est un discours qui marche dans une partie de la jeunesse.
C'est pas possible de s'illusionner pareillement. Effectivement, les jeunes, ils veulent du boulot, ils veulent sortir de papa-maman, ils veulent être logés à moindre frais. parce que ça coûte cher. C'est ça, la réalité.
Ce qu'ils veulent, c'est réussir, par exemple.
Non, mais ce qu'ils veulent, c'est des choses concrètes. C'est...
Mais vous savez, si ça avait été un échec, je vais vous dire, si ça avait été un échec, on aurait vu ça sur les résultats de YouTube. Vous pouvez le voir, moi, je me suis amusé à le faire. Je le fais toutes les semaines pour mes vidéos. Le taux d'engagement, il est énorme.
Oui, mais moi, je suis allé voir, j'ai pas trouvé ça bien.
Mais peut-être vous, mais auprès des jeunes, c'est un coup de communication. Et vous le voyez dans les commentaires. Dans les commentaires, vous le voyez. Il y en a qui disent qu'ils n'étaient pas du tout concernés par la politique et que c'est la première fois qu'ils regardent une vidéo avec un homme politique.
Oui, mais c'est, est-ce qu'un concours de blagues va vous amener à voter pas tous en même temps.
Elles ne votent jamais, les populations, à cet âge-là.
Est-ce qu'un concours de blagues va vous emmener à voter? Et puis, surtout, c'est imaginer que là, on a tous les jeunes. Je suis désolé, ceux qui réagissent sur les... Mais non, mais il faut regarder sur l'immense majorité de ces jeunes. L'immense majorité de ces jeunes, ils attendent, c'est le stage, c'est l'emploi, c'est un petit logement, c'est pouvoir se déplacer quand on est en région. Ce sont ces réalités-là.
Jean-Claude, il n'a pas besoin, moi je finis là-dessus, c'est qu'il n'a pas besoin de l'immense majorité des jeunes. Il a besoin d'être qualifié avec Marine Le Pen pour le second tour.
On est d'accord. On est d'accord.
Il ne le saura pas.
Oui, alors Philippe David qui participe, notre ami qui participe à l'émission avec des SMS qu'il m'envoie, désormais quotidien, il me dit mon fils de 25 ans a trouvé ça grotesque. Mais mon cher Philippe, ça ne s'adresse pas à ton fils, ça s'adresse aux 13, je crois que c'est 11, 13 ans, genre de les McFly, les Carlito. Même notre jeune réalisateur nous dit qu'il est à la limite d'être trop vieux, donc on est dépassé. Allez, on se retrouve
dans...
Pas du tout, quoi.
Non, si. On n'est pas dépassé.
Mais si, je prétends être Jacques, nous,
là où je suis perplexe, c'est est-ce que ça peut amener des jeunes à voter? Et on n'est pas d'accord là-dessus. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec vous. On va parler de la vaccination obligatoire et puis de ces faits divers qui continuent jour après jour et contre lesquels le gouvernement semble plutôt impuissant. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
On est ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio avec Jacques Myard, Mehdi Ourawi, Alex Darmon et Jean-Claude Beaujour. On va parler de cette agression contre ce maire hier tabassé à coups de barre de fer parce qu'il avait fait une remarque à un jeune qui, un délinquant on peut le dire, qui circulait à vive allure lors d'un canal fréquenté par des promeneurs. Il lui a demandé de ralentir. 7 à 8 personnes sont arrivées sur les lieux armées de barre de fer et s'en sont pris à ce maire. Et c'est vrai que ces agressions se multiplient et qu'on est à chaque fois assez effaré de la violence. Jacques Myard, vous êtes élu, on a déjà évoqué ce sujet avec vous. C'est un sujet beaucoup plus vaste sur la défiance de l'autorité, sur l'attaque de tout ce qui représente l'ordre. Comment vous réagissez à cela ?
Vous savez, le problème de l'ordre, c'est-à-dire que les enfants respectent les parents et respectent les professeurs, voire les autorités élues, c'est un long délitement auquel nous avons constaté. Et justement, si je reviens au sujet précédent, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'autorité sans qu'elles aient un prestige. Il ne faut jamais oublier, et c'est ce que De Gaulle disait, il n'y a pas d'autorité sans prestige et de prestige sans un certain éloignement. On n'est pas copain-copain. Et donc, pour revenir à cet incident parfaitement scandaleux d'un maire tabassé à coups de barre de fer, eh bien, c'est immédiatement la comparution immédiate si on les attrape et des sanctions fermes. Et j'ai toujours pensé que, de toute façon, la prison n'était pas toujours la solution. Non. Et je suis de ceux qui pensent qu'il peut y avoir des équipes disciplinaires, c'était les jeunes en équipe disciplinaire de travail, de Braque de la Perrière, et je crois qu'il nous faut repenser ce genre de choses, parce que les mettre en prison, c'est pas du tout certain qu'ils vont sortir avec un peu plus de plomb dans la tête et de responsabilité. En revanche, si on retrouve des unités spécialisées avec un encadrement disciplinaire au sens noble du terme, c'est-à-dire où on apprend à se lever le matin, à saluer les personnes avec lesquelles on travaille, etc. On a plein de gens. Or, tout ce système a été aboli depuis un certain nombre d'années. Donc, il faut retrouver ces unités-là pour qu'on réinflue dans l'esprit de ces jeunes le sens des responsabilités et on pourra en faire des citoyens. À défaut, on n'en fera que des malfrats qui auront de mal en pis.
Alors, vous avez vu la réponse de Gérald Darmanin qui a affirmé dans un communiqué sa volonté donc, de former les maires de France à la gestion des incivilités et agressions auxquelles ils peuvent faire face
à coup de barre de fer.
À travers des formations, écoutez bien, encadrées par la cellule nationale de négociation du GIGN. C'est-à-dire qu'on va... C'est la réponse, moi. Tout ce qui se passe est absolument dramatique. C'est la réponse que je trouve absolument consternante aussi.
Alors, la réponse est consternante à deux égards. Tout d'abord parce qu'il existe des sanctions. L'article 433.3 du code pénal et suivant, les articles et suivants, sanctionnent ce type de comportement. Donc il y a des sanctions qui sont déjà prévues par la loi et il faut que les tribunaux les prononcent. Rapidement, comparution immédiate et réalisation de peine. J'ajoute par rapport à ce que vient de dire Jacques-Marie, je partage, il y a la sanction, mais il y a la prévention. La prévention ne doit pas être sur les élus.
Non.
Où va-t-on ? La prévention doit être en direction de ces jeunes. Effectivement, ce sont des jeunes qui, pour certains, sont désocialisés. Imaginez un peu, au-delà du fait que c'est un maire, imaginez un peu, vous demandez à quelqu'un de faire un peu moins de bruit. Et cette personne revient avec ses copains, ou en tout cas convoque ses copains avec une barre de fer. Mais ça montre bien le caractère associable de ces jeunes, en tout cas de certaines personnes. Et c'est là où il faut un travail. Alors, il y avait les travaux d'intérêt général. Qui étaient mis en place, mais mal mis en place, en tout cas qui sont insuffisants. Il faut effectivement aller dans ce sens, parce qu'on ne peut pas continuer à remplir la prison, et puis la prison fait que ces gens-là ont de mauvaises fréquentations. Mais il faut effectivement un recadrage, il n'y a plus le service militaire. Il faut trouver des solutions qui vont permettre, à tout le moins, de prévenir. J'ajoute juste une chose, c'est que l'Association des maires de France, que connaît bien Jacques Mérat, avait recensé en 2020, de janvier à juillet 2020, 233 maires agressés en France contre 198 l'année précédente à la même époque. Ce qui veut dire que c'est un phénomène qui est exponentiel, exponentiel désormais.
En 2020, les élus ont été 1276 fois la cible d'agression. C'est une hausse de 200% par rapport à 2019. 500 maires ou adjoints ont été agressés physiquement. 68 domiciles d'élus ont été visés et des véhicules, une 70 environ, ont été vandalisés. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui est un exploseur. Alors Gérald Darmanin n'a pas réagi directement à ce qui s'est passé à Ouge, en Côte d'Or, où ce maire donc a été agressé à coups de barre de fer, ça répondait déjà à une précédente agression.
Mais comment voulez-vous avoir des élus si vous commencez par leur dire on va faire des stages avec des équipes de sécurité ?
On va pas faire du Krav Maga dans ce cas-là.
Ce qui est terrible, c'est que c'est pas que des agressions. Moi, j'ai un respect vraiment immense pour les élus locaux, pour les maires, Jacques Millard, vraiment immense parce que c'est vrai, je le pense vraiment, comme le dit. Moi, j'ai quitté la télévision pour aller sur YouTube pour raconter ces métiers, ces élus locaux, pour montrer qu'il y avait une vie dans les territoires. Et comme le dit le président du Sénat, le maire, c'est le premier élu à porter d'engueulade, c'est-à-dire que c'est celui que vous voyez.
C'est l'élu référent.
Voilà, vous le voyez sur le marché et donc ça va beaucoup plus vite. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a des agressions physiques, effectivement, mais il y a aussi des insultes sur les réseaux sociaux, c'est très difficile à vivre. Il y en a qui on tague sur leur maison, à leur domicile. Enfin, c'est vraiment horrible. Et de toute façon, je vais vous dire, le problème aujourd'hui, c'est que de moins en moins de maires veulent se représenter. C'est la conséquence directe.
Pas tous.
De moins en moins. C'est-à-dire que vous en aviez, je crois, 30% qui ne sont pas représentés aux dernières élections, et c'était, je crois, 25% aux élections d'avant. Donc, plus le temps passe, plus de moins en moins vont vouloir se présenter. Voilà. Donc, c'est terrible parce que il y a un maire qui est mort l'été dernier, rappelez-vous, parce qu'il avait voulu demander à une entreprise de.
Au-delà du fait divers, il y a quand même. Si on voit au-delà du fait divers immédiat, il y a quand même deux choses très préoccupantes. D'abord, un, le fait que de plus en plus de Français ont l'impression, et à mon avis assez juste, que des phénomènes d'ultra-violence atteignent désormais des zones qui en étaient préservées jusqu'à maintenant, et notamment des zones rurales, des petites communes, des zones périurbaines qui étaient plus tranquilles. Donc, je pense que c'est un des éléments peut-être d'explosion politique et d'explosion sociale dans les années qui viennent. C'est que ces gens qui avaient été préservés jusqu'à maintenant de ces formes d'ultra-violence qu'on connaissait dans les banlieues les plus dures autour des grandes agglomérations, banlieue parisienne, banlieue lyonnaise, banlieue marseillaise, etc., que ces phénomènes commencent à atteindre des zones qui ont été préservées jusqu'à maintenant. Deuxième élément, c'est qu'en réalité, on a beaucoup parlé de la manifestation des policiers il y a quelques jours pour parler de leur situation et pour parler des morts, des policiers morts en service, et notamment des policiers qui sont agressés, y compris chez eux, devant leurs enfants, etc. Et en fait, ce qu'on voit bien, c'est que ce n'est pas seulement un rapport à l'autorité qui pose problème, c'est un rapport à ce qui nous est commun. C'est-à-dire qu'on on agresse le policier, on agresse le maire, on agresse les instits, qui sont également des fortement agressés dans un certain nombre de jeux, où vraiment, on ne compte plus le nombre de faits divers où un parent n'hésite pas à venir gifler l'instit de son gamin, ce qui était totalement inenvisageable il y a encore 30 ou 40 ans.
Mais c'est bien qu'il y a un problème de réponse.
Il y a évidemment un problème. Non, mais Valérie, moi, je suis évidemment... Moi, je ne ferme pas les yeux. Moi, je ne suis pas la gauche qui ferme les yeux sur les problèmes d'autorité. Donc, évidemment qu'il y a un problème de sécurité, d'autorité et d'ordre. Ça, c'est des choses... Moi, c'est des mots qui ne me font pas peur. Mais il faut aussi, au-delà de ça, réfléchir au fait que quand même, ces gens-là... Je pense au personnel soignant, les pompiers, quand on caillasse un pompier, quand on frappe une infirmière dans un service d'urgence, etc., c'est qu'on voit bien qu'il y a aussi un problème de ce qui nous lie les uns aux autres. Et souvent, c'est le service public. Voilà. Et donc, quand même, il y a quelque chose de très inquiétant parce que au-delà de la question simplement de la délinquance, il y a simplement le fait qu'on n'appartient plus au même pays.
Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu de réponse pendant des années.
Bien sûr.
Qu'à partir du moment où il n'y a pas de sanction à la violation d'autorité, à l'insulte, eh bien, ça devient la norme dans l'esprit des gens. Et tout à l'heure, Alex parlait des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la violence est aussi sur les réseaux sociaux.
Absolument.
Où on tourne en dérision tout ce qui est... On va même plus loin, on insulte des élus, on insulte des policiers, etc. Donc c'est un tout ça. Il y a un moment, il faut remettre la pyramide sur ses bases et avoir des sanctions appropriées, mais des sanctions immédiates.
Oui, mais l'image qui est renvoyée quand même quand on voit les sujets qu'il y a eu le week-end dernier sur les rodéos contre lesquels les maires et les policiers sont impuissants parce qu'on sait que si on intervient, ça risque de dégénérer.
Qu'on a peur.
Bah oui.
Moi je voudrais.
Mais le problème, c'est que si. Qu'est-ce qui est en train de se passer? L'histoire des mortiers, lorsqu'ils tiraient aux mortiers sur des policiers, sur des pompiers, etc. Et que ce sont finalement les Gaulois réfractaires qui vont répondre avec des mortiers, eh bien, si on n'arrête pas et s'il n'y a pas des sanctions immédiates, je peux vous dire que ça va aller croissant et que c'est le peuple qui va vouloir se faire justice eux-mêmes. C'est-à-dire, ça va être la chienlit.
Moi, je voulais juste préciser en complément de ce qui vient d'être dit et que je partage, on a le sentiment qu'aujourd'hui, c'est la prévalence du moi.
Exactement.
Si moi, je ne suis pas satisfait dans mes besoins, si moi, j'ai le droit parce qu'il y a un espace de faire du bruit jusqu'à point d'heure, parce que moi, je veux pouvoir prendre du bon temps. Il y a le moi aux dépens de la communauté, c'est une difficulté que nous avons. Alors, est-ce que ça s'explique par les conséquences, j'ai envie de dire, négatives de mai 68? Est-ce que ça s'explique par d'autres... Moi, j'ai le sentiment que, oui, depuis 30-40 ans, le moi a une priorité par rapport à la communauté. Deuxièmement, on est toujours sur le refus des institutions, on est toujours sur le refus de tout ce qui représente cette communauté. Parce qu'on parlait des instituts, on parlait des fonctionnaires de police, on pourrait citer les médecins, les avocats, les magistrats, les élus, bref, les journalistes, tous, autant que nous sommes considérés comme étant la source du problème de cette société, là où il faudrait peut-être un petit peu réfléchir. Et j'ai peut-être un dernier point à rajouter, c'est que trop souvent j'ai le sentiment que les uns et les autres, on voudrait donner une réponse rapide, je ne dis pas ça pour aujourd'hui, mais d'une manière générale dans le débat public, on pense qu'il suffit de faire plus de prison, il n'y aura plus de problème, il suffit de faire plus de telle chose, et il y a très peu de réflexions communes, et je pense que l'élection l'élection présidentielle devrait précisément être l'occasion d'avoir un vrai débat sur une réflexion commune sur la société de demain, avec ce que nous entendons, ce sur quoi nous entendons nous accorder, ce que nous voulons et une feuille de route précise. Moi, c'est ce que j'attends du projet. Ça peut peut-être faire sourire, mais ça ne sert à rien de dénoncer, ou ça nous sert à très peu de dénoncer le comportement de ces jeunes, si on n'essaie pas à la fois de comprendre et puis de dire voilà ce qu'on retient pour nous ensemble et qu'on s'y tienne.
Il faut un projet.
Nation, c'est faire citoyenneté, absolument. C'est effectivement recréer dans l'esprit des gens qu'ils appartiennent à un tout et qu'il y a un moment, le sens collectif doit l'emporter sur l'individualisme. Ouais.
Sujet de la citoyenneté est essentiel.
Et je vous signale ce médecin de famille qui exerçait depuis 45 ans à Mantes-la-Jolie, qui a décidé de jeter l'éponge. Il a 74 ans et son cabinet a été saccagé. Et
vous imaginez, à 74 ans
74 ans, il a contribué à vacciner contre le Covid. C'est un médecin de famille et il dit je ne peux plus continuer dans ces conditions-là.
D'une minorité, vous voyez, c'est absolument ça qui est dramatique. C'est qu'à cause d'une petite minorité, ce sont des quartiers qui effectivement se déshumanisent, ce qui est complètement, qui est contraire à la fois à la culture républicaine, et c'est la raison pour laquelle moi je redis, l'état de droit, la citoyenneté sont au cœur de la réflexion.
Absolument.
Sont au cœur de la réflexion, et nous n'y parviendrons pas si nous ne passons pas par cette réflexion.
Sanctions. Un moment, l'autorité sans sanction, c'est du laxisme, c'est de la lâcheté.
Allez, on continue à débattre dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, nous débattons jusqu'à midi avec Jean-Claude Beaujour, Alex Darmon, Mehdi Ouraoui et Jacques Myard. On a Abdelhak en ligne qui est avec nous. Vous vouliez réagir sur le sujet précédent et puis on va parler de la vaccination aussi obligatoire. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur la violence contre les élus?
C'est pas que contre les élus, c'est contre tout le monde. Il y a un trou en France, ce pays est extraordinaire, mais il y a un gouffre incroyable entre le devoir et les droits. La punition, la sanction est super importante, elle n'est pas du tout proportionnelle en fait à ce qui arrive. On minimise trop, on dit quelques coups, ils sont revenus pour se venger. Ça, ce pays est cash. En Espagne, je vous dis, on a eu le cas il y a 2 ans. Des petits Gaulois sont partis à faire les cakes et se battre lors des fêtes de Pamplune. Mais écoutez, les Espagnols, ils n'ont pas bataillé avec eux. Ils ont demandé 17 000 euros pour qu'ils puissent sortir de prison. Le simple fait d'avoir participé à une bagarre. L'un, les parents avaient les moyens, l'autre n'avait pas les moyens. Et celui qui avait les moyens est sorti quand même qu'au bout d'une semaine. La sanction, si elle n'est pas proportionnelle au minimum. Ici, en France, le problème, c'est quand on minimise la violence, c'est toutes les violences. Regardez, c'est pour ça qu'il y a eu encore, il y a 2 jours, une femme qui a été assassinée par son compagnon. C'est pour ça qu'à Bordeaux, quelqu'un va se venger de son ex en lui tirant 2 balles dans les jambes et ensuite la faire brûler. C'est pour tout ça, c'est parce qu'on minimise trop. L'intimidation est une violence déjà extraordinaire, c'est énorme. Rien que l'intimidation, on touche même pas physiquement, on fait peur aux gens. C'est déjà énorme, il faut le vivre pour le comprendre. Ouais. Et après, à force de minimiser, voilà, c'est là où on est ridicule. On est un des pays les plus nazes, les plus ridicules en la matière. Ouais. C'est pour ça que demain ou après-demain, il y aura encore une pauvre femme qui va encore mourir sous les yeux de ses enfants et autres. C'est ainsi, la France est ainsi.
Il n'y a pas que la France, Abdelhak. Des faits divers, il y en a toujours eu. Ce qu'on note là, en tout cas, c'est quand même une forme d'impuissance de l'État face à la montée d'un certain type de violence. Donc, on parlait de ces rodéos où on voit que il y a rien. Les mortiers, Darmanin nous avait annoncé que ça en serait fini, qu'il allait interdire la vente des mortiers. On voit qu'il y en a toujours.
Il y a un beau de la sécurité qui va arriver.
Textes.
Tout simplement parce qu'il les commande sur Internet.
Les textes prévoient, je rappelle que l'article 433 du Code pénal prévoit de sanctionner tout acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée, etc., etc., qu'il accomplisse, s'abstenir d'accomplir, etc. Donc, si vous voulez, les textes prévoient, encore faut-il qu'ils soient effectivement appliqués rapidement. C'est la seule solution. On n'a pas besoin de créer d'autres textes, on a simplement besoin qu'on applique ceux qui existent.
Je voudrais qu'on parle donc de l'Académie de médecine, qui a alors relancé hier le débat sur la vaccination obligatoire. ça avait été évoqué, rejeté. On avait dit qu'il n'y avait, avait pas assez de vaccins, mais pour obtenir une immunité, il faudrait que, qu'on vaccine plus, plus de monde. Et donc, l'Académie de médecine préconise de rendre la vaccination contre le Covid obligatoire pour l'exercice de toute activité professionnelle essentielle, conduite du gouvernement de l'État, enseignement, services de santé, de sécurité, la police. Bref, ça, ça concerne une certaine catégorie, et puis les étudiants aussi à la rentrée 2021. Donc évidemment, ce n'est qu'un avis. Néanmoins, cet avis est important. Qui est-ce qui veut réagir, Mehdi ou Raoui?
Oui, bon, moi je crois que, alors il faut, définir le périmètre des gens qui seraient concernés, mais je crois qu'effectivement pour des gens qui sont concernés dans un service public où il y a beaucoup de passages et où les publics à risque sont nombreux, ou alors les publics peuvent être de très forts transmetteurs, on se demande encore si les enfants sont les principaux transmetteurs, etc. Je crois qu'effectivement, il faut qu'il y ait un certain nombre de professionnels, et notamment dans la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, qui acceptent que ils ont un rôle particulier dans la nation à jouer et que ce rôle particulier implique d'être vacciné et de ne pas être eux-mêmes transmetteurs de Covid. C'est très difficile à faire comprendre. On l'a bien vu ces derniers mois, mais à mon avis, c'est absolument incontournable pour sortir de cette crise. Oui, c'est évident.
Oui, Jean-Claude.
Oui, je pense que évidemment le principe de liberté prévaut toujours, mais je pense qu'il faut qu'on mette en face le principe de responsabilisation des uns et des autres. La situation que nous venons de vivre maintenant, on est sur quasiment 2 années. Avec chômage, détresse psychologique, avec un certain nombre de difficultés, impose que nous fassions des choix politiques. Donc si, éclairé par les médecins, ce que je ne suis pas, si éclairé par les médecins, le pouvoir politique considère que cette vaccination obligatoire pour certains personnels et pour faire fonctionner le pays et pour limiter la contagion et éviter que nous revivions ce que nous venons de vivre depuis 2 ans, ça mérite, en tout cas ça mérite d'approfondissement, et en tout état de cause que l'Académie de médecine nous en dise un peu plus, parce qu'il s'agit d'un avis, de manière à ce qu'on soit bien éclairé sur les tenants et les aboutissants.
Oui, Jacques Myard.
Vous savez, l'État a rendu obligatoire, par exemple, le port de la ceinture de sécurité lorsque vous conduisez. Il me semble que dans certaines circonstances, effectivement, la vaccination répond obligatoire, n'est pas une atteinte à la liberté individuelle, mais répond à une responsabilité collective qui doit être mise en place. Je suis assez effaré par tous ces gens qui hurlent comme si c'était une mise, comment dirais-je, en péril des libertés publiques et individuelles. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, dans cette pandémie qui est une pandémie mondiale, il faut prendre des mesures à la hauteur des enjeux, et c'est tout. Moi, je ne prends pas ça comme étant une atteinte à ma liberté individuelle. Alors, tout est à ce moment atteinte à la liberté individuelle, comme de dire « je vais conduire à droite et non pas à gauche » comme en Angleterre, par exemple, il y a des règles. Eh bien, dans ces règles, le sens collectif doit l'emporter sur l'individualisme forcené.
Oui, Alex.
Non, je suis d'accord et je m'inscris dans tout ce qui vient d'être dit. Maintenant, ça me semble très compliqué quand même.
D'obliger les gens à se vacciner.
Enfin, je ne vois pas comment on peut réussir, en tout cas en France, en tout cas.
La pédagogie.
Ouais, enfin, la pédagogie, quand on en fait...
Il reste 20% de grosso modo, 25% de Français qui ne veulent pas être vaccinés. Maintenant, les vaccins obligatoires existent pour les enfants. Vous ne pouvez pas envoyer votre enfant à l'école s'il n'est pas vacciné.
Bien sûr.
Donc, le rendre obligatoire, ça veut dire qu'un enseignant qui refuserait de se faire vacciner ne pourrait pas enseigner, ou qu'un pompier ou un policier. Est-ce que constitutionnellement, ça...
Oui, bien sûr,
c'est très compliqué.
Non, je suis désolé, ça semble compliqué si on veut, et je pense qu'il ne faut pas poser la question au Conseil constitutionnel de manière trop prématurée. La question n'est pas d'empêcher de porter atteinte à la liberté d'exercice d'un fonctionnaire, mais c'est de dire à un moment donné qu'il y a un risque et que ce risque est minoré par le fait de... Alors après, on va me dire, je peux ne refuser qu'on m'injecte un produit. Oui, on peut en débattre, mais le problème, c'est que cette personne peut, elle, contaminer d'autres personnes. Je veux dire, c'est, il faut trouver le
Je suis d'accord avec vous. Hein. Moi, je m'inscris vraiment, je le dis, je le répète, je suis pour. Maintenant, quand vous voyez ce qui s'est passé, on en a parlé en début d'émission, les gens qui manifestent, même si c'est une minorité, avec une telle haine.
Mais laissez-les manifester. Mais ça n'est pas parce que, attendez.
Mais donc ça veut dire que eux, il faut réussir à les convaincre.
Non, mais attendez. Vous aurez toujours. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des minoritaires qui s'agitent. Et dans ce pays, on a trop tendance à se coucher devant quelques minoritaires qui s'agitent et de dire la majorité pense. En tout cas, on ne dit même pas majorité, on dit le peuple français. Refuse de. Ben oui, laissez, on aura toujours des réfractaires, mais c'est pas grave. Je pense que la décision politique, elle doit s'exercer dans le sens de l'intérêt général et non pas pour pouvoir faire plaisir à une petite minorité agissante.
Pour ceux qui ont comme argument, oui, mais ça sert à rien parce qu'on est toujours contaminant, il y a une étude américaine, enfin, c'est le gouvernement américain, c'est pas une étude comme ça. 0,01% des personnes qui ont été entièrement vaccinées contre le Covid entre janvier et avril ont ensuite été infectées par le virus. Donc, c'est une très grande efficacité. 0,01%.
Vous savez, tous ceux qui ne sont pas convaincus, qu'ils nous apportent la preuve scientifique du contraire ou de la meilleure solution qu'ils auraient à proposer.
Scientifique, on a bien dit scientifique.
Qu'il y aurait une meilleure solution.
Et pas seulement sur un bout de table en disant, j'ai une quarantaine de cas, suivez mon regard.
Voilà, qu'ils nous apportent la preuve ou qu'ils nous proposent des solutions. Allez, vous savez, nous, on a besoin de solutions.
Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.